Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciade, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais je vous propose d'écouter la version abrégée du livre de Jacques Semelin, qui s'intitule « J'arrive où je suis étranger », édité au Seuil en septembre 2007. Alors Jacques Semelin est historien, il est politologue, il est également professeur des universités à l'Institut d'études politiques à Paris. Il est directeur de recherche du CNRS, il est écrivain également, il a écrit de nombreux ouvrages. Il travaille depuis de longues années sur la question des violences extrêmes et des meurtres de masse. Il est une référence au niveau international. Alors comme je vous le disais, il a écrit pas mal de livres, notamment « Purifier et détruire usage politique des massacres et génocides », ça c'était un de ses plus récents, mais également « Sans armes face à Hitler »,« La non-violence expliquer à mes filles, la liberté au bout des ondes, quand la dictature se fissure. Et puis, le plus récent également, septembre 2007, J'arrive où je suis étranger, édité au Seuil. Plus qu'une autobiographie, c'est un témoignage, plus exactement, un témoignage au style simple, sincère et sensible, puisqu'il décrit son arrivée, son passage du monde de la lumière au monde de l'obscurité, puisque Jacques Semelin est devenu non-voyant. Il est non-voyant. Il était la semaine dernière à la médiathèque José Cabanis pour nous parler justement de ce livre. Et donc, je vous propose d'écouter cette version abrégée de son livre, qui est lu d'une façon très belle par Pierre Arditi, le comédien et acteur. Donc, je vous propose aujourd'hui d'écouter cette version de son livre. J'espère que cela vous plaira. Moi, ça m'a tenu beaucoup à cœur de vous faire écouter ce livre. Et c'est l'un des meilleurs. J'en ai lu pas mal, écrit par des auteurs non-voyants. Et pour moi, il est vraiment l'un des meilleurs parce que son style, comme je vous l'ai dit, est simple, sincère, il n'y a pas de pathos, c'est vraiment écrit magnifiquement. Et puis vous verrez, c'est quelqu'un de très combatif, de très positif, malgré les difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa vie en perdant la vue petit à petit. Donc je vous propose d'écouter la belle voix d'Arditi pour servir le livre de Jacques Semelin, « J'arrive où je suis étranger ».
Ce jour-là, les robes des filles étaient plus belles que d'habitude. Un soleil printanier rayonnait sur Paris, et les terrasses des cafés ouvraient leurs bras aux passants. Du haut de mes 16 ans, je remontais la rue Gay-Lussac. J'étais alors en seconde au lycée Lavoisier. J'avais une heure de libre entre deux cours, et je me rendais à l'Institut national de l'orientation professionnelle pour connaître le résultat de mes tests. Comme bien des ados, je ne savais que faire de ma vie, à quel métier me destiner. Au lycée, la conseillère d'orientation, qui, je m'en rendis compte, ne conseillait pas grand-chose, m'avait suggéré « Pourquoi n'allez-vous pas passer des tests à l'INOP ?» J'avais suivi son conseil, on m'avait fait passer des tests ainsi qu'une visite médicale, notamment pour les yeux. Je fus reçu par une dame qui me parut gentille, et pourtant elle semblait embarrassée. Sans grand ménagement, elle m'annonça « Monsieur, vous a-t-on dit que vous alliez devenir aveugle ?» J'en eus le souffle coupé et je murmurai un petit « non ». Votre examen ne laisse pas de doute, vous avez une maladie de la rétine et vous allez perdre la vue. Mais quand ? Personne ne saura vous le dire, mais cela arrivera. Alors quel métier choisir ? Vos tests montrent que vous avez des possibilités, mais évidemment votre choix professionnel est très limité. Peut-être pourriez-vous devenir kinésithérapeute ou instituteur. En retournant au lycée, je n'étais plus le même. Cette nouvelle brutalement annoncée me paraissait complètement irréelle. Je déjeunais à la cantine, comme d'habitude. À la sortie, je retrouvais mon meilleur ami qui me proposa d'aller prendre un café à la terrasse d'un bistrot. Tandis qu'il me parlait du prochain contrôle de maths, je repensais subitement à ce que je venais d'apprendre. J'ai dû éprouver alors quelques secondes ce qu'on nomme, je crois, du désarroi. Un désarroi profond comme une sorte de vague océane qui vous submerge, étouffante et glaçante à la fois. et j'eus le désir violent de lui dire, de lui crier, « Mais tu sais, mon pote... » Et puis rien. Pas un mot n'est sorti de ma bouche. J'ai eu trop peur de le perdre. Peur qu'une distance s'installe entre nous, qu'il ressente pour moi de la pitié ou que sais-je encore. Je n'ai rien dit ce jour-là, ni plus tard. J'ai gardé mon secret. Je l'ai gardé pendant des années, ne me confiant à personne. Le soir même, je n'ai pas davantage parlé à mes parents. À quoi bon les inquiéter inutilement? On ne parlait pas beaucoup à la maison, je veux dire de choses profondes, de soi. Pour l'ado que j'étais, cette nouvelle n'était tout simplement pas communicable. C'est en tout cas ainsi que je l'ai vécue. Bien sûr, j'avais déjà observé moi-même à travers différents indices que je ne voyais pas bien, mais de là à imaginer le pire. Je voulais être certain de ce que l'on m'avait prédit à l'INOP. J'avais donc rendez-vous chez le docteur Blanchot, une dame très distinguée qui exerçait à Sceaux. Sans détour, elle me confirma tout ce que j'avais appris. Oui, j'étais atteint d'une maladie de la rétine, une rétinopathie. Oui, j'allais perdre la vue, mais il était impossible de dire quand. Tout dépendrait du développement plus ou moins rapide de l'affection. C'était comme si une sorte de pigment allait envahir peu à peu ma rétine. Tout d'abord, la périphérie de l'œil serait atteinte, et puis la pigmentation gagnerait le centre. Les cellules à bâtonnets nécessaires à la vision nocturne seraient touchées les premières, et puis viendrait le tour des cellules à cônes, indispensables pour voir le jour et pour percevoir les couleurs. Conséquence inéluctable, je verrais de moins en moins la nuit, et puis mon champ visuel se rétrécirait. Ma vision centrale de jour serait touchée à son tour, jusqu'à ce que je ne puisse plus du tout lire. Cette pigmentation était déjà bien visible sur mon œil gauche, ce qui expliquait les observations que j'avais moi-même pu faire. Le docteur Blanchot me précisa que cette maladie assez rare était d'origine génétique et qu'il n'en existait aucun traitement médical. La vie reprit bien vite le dessus. J'étais heureusement happé par mon existence quotidienne de lycéen, les cours, les potes, les heures passées au café autour de Lavoisier, à jouer au billard, aux dés ou aux cartes. Et puis arriva mai 68 avec ses cortèges joyeux et ses slogans frondeurs. J'étais alors fort peu politisé. Mai 68 a eu pour conséquence de m'éveiller à la politique et aux autres en général. L'année suivante, celle de mon bac, on pouvait élire des délégués de classe. Pourquoi pas moi, me suis-je dit. Et je fus élu. C'est dire que j'étais loin de toujours penser à mes yeux, à mon secret. Peut-être même que j'avais besoin d'activité pour me décentrer de moi-même. Je réussis mon bac et de surcroît avec mention. Mes parents en éprouvèrent de la fierté, pour eux qui n'avaient pu faire d'études, c'était une récompense. C'est le premier bac dans notre famille et j'en suis très heureuse, me dit spontanément ma mère en m'embrassant tendrement. Cependant, il ne savait pas me conseiller pour la suite. Je me suis finalement décidé à m'inscrire à la Sorbonne, en psychologie. Sans doute pense-t-on qu'en prenant des cours de psychologie, on va pouvoir résoudre plus facilement ses problèmes. Illusion, bien sûr. Dans mon cas, j'ai aussi choisi cette voie parce qu'elle ne me semblait pas complètement barrée. Je me disais, le travail du psychologue n'est-il pas d'abord d'écouter les patients? Même si tu ne vois plus, tu pourras toujours le faire. Mon diplôme en poche, je me suis engagé dans ce qui me tenait le plus à cœur. Militer pour mes idées. J'étais devenu très actif dans les milieux non violents. Se battre pour des valeurs me semblait en définitive l'unique ligne de défense contre la maladie. J'en étais convaincu. Avoir la foi en un idéal constituait le meilleur rempart pour tenir. Les médecins ne disent-ils pas que le bon moral du patient est l'une des clés de la réussite d'une thérapie? Ainsi me croyais-je à peu près armé pour affronter mes peurs de l'avenir, proches ou lointains. Je ne me doutais pas de ce qui m'attendait en ce jour d'été à Noirmoutier, où je m'étais rendu pour y retrouver mes parents et me reposer un peu. Alors que j'étais allongé sur la plage, un enfant passa à côté de moi en courant, me lançant par inadvertance un peu de sable sur le visage. Pour l'enlever, je dus frotter mon œil droit tout en laissant le gauche ouvert. Je me rendis alors compte avec stupéfaction que je ne voyais plus rien de ce côté-là. C'était tout simplement horrible. Cela ressemblait à du brouillard dans lequel perçait une lumière opaque. impossible désormais de contempler les allées et venues des voiliers et les jolies filles sur la plage. Fini aussi le spectacle des couchers de soleil sur la mer. Ma vision de l'œil gauche avait désormais la couleur de la grisaille, c'est-à-dire de la tristesse. Heureusement, il me restait encore le droit, mais combien de temps allait-il tenir? Après la conscience de ce premier naufrage, elle vint à me téléphoner, sans avoir idée de ce que j'étais en train de vivre. Son prénom, Lydie, plutôt rare et élégant, m'a tout de suite plu. J'avais fait brièvement sa connaissance durant la préparation de la semaine de la non-violence. J'avais aussitôt aimé ses yeux bruns profonds et le dessin de ses lèvres. Son visage rayonnait à la fois d'intelligence et d'enthousiasme. Néanmoins, je ne parvenais pas à être complètement détendu avec elle. Quelque chose me trottait dans la tête. Ayant conscience que notre relation devenait sérieuse, je me devais de la mettre au courant. Mais que lui dire exactement et quand? Ce dont j'étais certain, c'était de vouloir lui confier mon secret. Oui, pour la première fois, depuis l'âge de mes 16 ans, j'envisageais de briser le silence, mon silence, pour la personne qui commençait à compter pour moi. Cela n'allait pas être facile. Un jour que nous nous promenions au Plessis Robinson, dans cet environnement qui avait été celui de mon enfance, je me jetai à l'eau. Sur le moment, je me suis senti soulagé, et c'était chose plutôt rare dans mon cas. Optimiste quant à mon propre avenir. C'était merveilleux. L'un et l'autre, on commençait à imaginer la possibilité d'avoir des projets en commun. Pourquoi attendre davantage? Nous décidâmes de vivre ensemble. Pour trouver un emploi stable, je n'avais comme carte d'entrée que mon diplôme de psychologue. La chance m'a bientôt souri, et j'appris qu'un institut accueillant des enfants et des adolescents handicapés légers recherchait un psychologue à mi-temps pour une tâche qui pouvait me convenir. L'équipe de cet institut médico-professionnel, le Bel Air, situé au Chênay, près de Versailles, était engagée dans un projet pédagogique particulièrement dynamique. Son directeur, Albert Mallet, envisageait la création d'une sorte de journal psychopédagogique qui, tout en stimulant le travail d'équipe à l'intérieur du centre, contribuerait à son rayonnement. Quand je me présentais au Bel Air un jour de 1980, j'étais très anxieux. Je n'avais jamais passé de véritable entretien d'embauche. Or, je voulais par-dessus tout dissimuler mon problème visuel. À cette fin, j'avais réfléchi à une stratégie. Être très attentif à mon environnement, observer tout au maximum, quelques secondes à l'avance, pour n'être surpris par rien. Bref, anticiper la situation et le geste de manière à être le plus naturel possible et que rien ne se remarque quant à mes yeux. La secrétaire me reçut très gentiment et s'excusa. « Le directeur est un peu en retard, asseyez-vous dans son bureau, il va arriver. » Super. Je ne pouvais espérer meilleure introduction. Pénétrant un peu en avance dans la pièce, j'avais en effet tout le loisir de l'observer et de bien repérer la chaise réservée aux invités. Toutefois, il y avait encore l'épreuve de la poignée de main, que je ne devais rater à aucun prix. Gagné. Mon geste fut impeccable quand le directeur arriva pour me saluer. Notre entretien se déroula au mieux. Finalement, j'obtins le poste. J'appris plus tard de la bouche d'Albert Mallet lui-même qu'il s'était rendu compte de mes difficultés dès la fin de notre entretien. En me raccompagnant à la porte de son bureau, il s'était aperçu que, curieusement, je cherchais l'escalier qui se trouvait juste devant moi. Mais il ne s'en était pas alerté outre mesure, notre entretien s'étant très bien passé. J'entrais alors de plein pied dans une période étrange et inconfortable pour moi et pour les autres. Quand j'arrivais le matin au Bel Air, certains se demandaient « Suis-je au bon endroit, ni trop près, ni trop loin, pour qu'en le saluant, il voie mon geste ?» D'autres constataient que j'avais parfois des comportements inexplicables, ne trouvant pas une chaise à ma portée ou m'apprêtant à ouvrir la porte avant d'une voiture alors qu'on me demandait de monter à l'arrière. Ainsi, mes collègues n'étaient-ils pas toujours à l'aise avec moi, car aucun mot n'était mis sur de telles conduites puisque je ne leur avais rien dit de mes problèmes de vue. J'avais atteint le stade que les spécialistes appellent « vision en tunnel ». Avec mon œil gauche déjà fichu et le champ visuel du droit qui s'était beaucoup rétréci, je voyais à peu près clair devant moi, mais de moins en moins sur les côtés, ce qui ne me permettait pas de détecter les obstacles situés à la périphérie. Je me heurtais de temps en temps les tibias contre les plots en ciment ou les barres en métal disposées sur les trottoirs pour empêcher les voitures de s'y garer. J'aurais pu en vouloir au monde entier, et au maire de Paris en particulier, qui ne faisait rien pour faciliter les déplacements des déficients visuels sur la voie publique. J'aurais pu percevoir le monde extérieur comme de plus en plus hostile, et me replier chez moi dans mon petit confort intérieur. C'est d'ailleurs ce que m'avait prédit le docteur Blanchot. Vous ne serez vraiment à l'aise que chez vous. Mais non, cela ne serait pas ainsi. Je n'étais pas du genre à rester cloîtré entre les quatre murs de mon appartement. Ces petits bobos n'allaient pas m'empêcher d'avancer. Un nouveau projet avait mûri depuis peu dans ma tête. J'avais envie de transformer mes anciennes convictions militantes en véritable hypothèse de recherche. Pour entreprendre un tel travail, le cadre de l'université était le plus approprié. Ma décision était prise. À 31 ans, je retournerai donc à la fac pour y préparer un doctorat en histoire. Sans doute avais-je besoin de me projeter dans l'avenir, de toujours croire en quelque chose. Mes journées étaient bien occupées, mes nuits parfois aussi. De temps en temps, je me sentais fatigué. Je veux dire qu'au-delà de mon état physique général, je sentais que mes yeux se fatiguaient. Plus exactement mon œil droit, le seul valide. Il m'arrivait par exemple de ne plus pouvoir déchiffrer les petites lettres d'un fichier de bibliothèque. Quant à la consultation de microfiches, mieux valait ne pas y penser. Ma vision centrale commençait-elle à être atteinte? Pourrais-je terminer ma thèse? J'avais le sentiment que mon temps était compté et que je me trouvais engagé dans une course contre la montre, une course contre moi. S'engager en couple conduit à s'interroger sur le désir de fonder ensemble une famille. Un jour que je me sentais assez fort dans ma tête, je me rendis seul à la consultation génétique de l'hôpital Necker. Je fus reçu par une jeune femme accueillante qui m'interrogea aussitôt sur mes antécédents familiaux. « Êtes-vous le seul de votre famille à être atteint ?» m'interrogea-t-elle. Du côté de mon père, rien à signaler. Du côté de ma mère, il y avait effectivement un cousin de Noirmoutier qui avait perdu la vue. Mais quelle avait été exactement son affection, on n'en avait jamais rien su. Et on n'en saurait jamais rien puisqu'il était mort. Quant à mon frère et à ma sœur, heureusement pour eux, ils n'avaient rien. C'était plutôt maigre comme information. Mais la jeune doctoresse en conclut que mes enfants éventuels, filles ou garçons, ne seraient pas atteints. Je ne pus m'empêcher de lui demander « En êtes-vous vraiment sûre ?»« Pratiquement certaine. » Il y avait quand même une légère réserve dans sa voix, car elle ne disposait pas des examens médicaux de tous les membres de la famille qui auraient pu confirmer ses hypothèses. Néanmoins, je quittais Necker bien plus léger que je n'y étais arrivé. Un peu par hasard, j'eus bientôt une nouvelle discussion sur la paternité dans le cadre de mon travail de psychologue. Au bel air, les occasions d'échanger sur un tel sujet ne manquaient pas. Un jour, je prolongeai la discussion avec Corinne, une éducatrice spécialisée très sympathique. S'il y avait dans tout l'établissement une personne à qui je me confiais un peu, c'était elle, cette jolie brune, souvent rieuse. Tout de go, je lui déclarai que je n'imaginais tout simplement pas être père. Et surprise, elle m'invita à m'expliquer. Ben, tu vois, c'est un détail, mais important pour moi. Être père, c'est par exemple pouvoir jouer au foot avec ses gosses. Quand j'étais gamin, j'adorais taper dans un ballon. Aujourd'hui, je ne le peux plus. Ce plaisir du jeu physique et de ses sensations, j'aimerais tant le partager avec mes enfants. Or, je sais que c'est désormais impossible. Et elle de me répondre, mais Jacques, être père, ça n'est pas cela. C'est d'abord l'image que tu représentes pour ton enfant, ce que tu peux lui transmettre de toi, les valeurs que tu peux lui communiquer. Et moi d'insister, pour être père, il faut pouvoir assurer la sécurité physique de son enfant. Or, dans mon cas, mon rôle de protecteur en cas de danger sera toujours incertain. Alors à quoi bon? C'est sans doute vrai, concéda-t-elle. Mais tu peux lui garantir une autre forme de sécurité, une sécurité psychologique. Tu peux lui donner des repères essentiels pour se construire. Dans repères, n'y a-t-il pas père ? Cette conversation eut sur moi un effet apaisant. Simples et directs, les mots de Corinne me semblaient justes. Ils allaient se frayer peu à peu un chemin dans ma tête. Un soir, Lydie vint me voir en rentrant du bureau et me dit sur le ton de la confidence « Devine. » Je compris tout de suite. Elle était enceinte. Tout en sautant de joie, je mesurais mes responsabilités à venir, et c'est précisément en pensant à cette prochaine paternité que j'acceptais d'aller vers la COTOREP, la commission chargée de l'attribution des aides d'invalidité. J'en connaissais l'existence depuis que je travaillais au Bel Air. On conseillait aux parents des enfants que nous recevions de prendre contact avec cet organisme. J'étais bien passé de l'autre côté de la barrière. Pour statuer sur mon cas, on me convoqua bientôt à une visite médicale. Un médecin examina mon fond d'œil. Il ne lui fallut pas longtemps avant de se rendre compte du désastre. J'étais bon pour la carte d'invalidité avec la mention « cécité ». À 35 ans, je me retrouvais avec le statut d'aveugle officiel, au regard de la loi française et de la société. Pourtant, dans ma tête, je ne me sentais pas du tout aveugle. D'ailleurs, j'y voyais encore un peu, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. La lettre d'Harvard était arrivée fin avril. Il s'agissait d'un appel d'offres international promettant une bourse aux candidats dont le projet serait retenu. À plusieurs reprises déjà, j'avais reçu des informations concernant la création récente d'une équipe de recherche sur les stratégies non violentes au sein de la prestigieuse université américaine. Le projet avait été lancé par Gene Sharp, ce chercheur américain dont j'avais bien sûr lu les travaux. Le montant de la bourse permettait de venir à Harvard pour une durée variable, entre 3 mois et 1 an. Il valait la peine que je constitue un dossier. Au cours de cette même période, je pris contact avec la Fédération pour la rééducation des déficients visuels, FRDV. On m'y proposa des cours de locomotion. Vint le moment fatidique de l'apprentissage de la canne blanche. Pour la première fois de ma vie, j'en pris une dans mes mains. C'était bizarre de tenir ce truc devant soi en le frappant sur le bitume. Faites bien attention à taper votre canne à gauche en avançant le pied droit, et puis à droite en avançant le pied gauche, me répétait la monitrice. Ça n'était pas évident et je ne semblais pas être un bon élève. Après cette séance, je m'obligeais pourtant à faire l'acquisition d'une canne, mais pour la ranger aussitôt dans mon sac. Arriva enfin ce moment magique, cet événement auquel je n'avais pas voulu croire et qui allait pourtant se produire devant moi. La naissance de notre fille. Marie s'annonça au monde à la veille de l'été. J'osais à peine toucher ce petit corps endormi et le prendre dans mes bras. Je l'ai entreaperçu, ce joli visage aux traits si fins, mais aussi si flou, aux cheveux d'ébène et à la peau presque cuivrée. On aurait dit une petite indienne. En réalité, elle nous faisait une belle jaunisse. Je me sentais subitement quelqu'un de différent. Je partageais désormais la charge de ce petit bout de vie, ne sachant si je serais à la hauteur de la tâche. Cela renforçait mon désir de me surpasser pour qu'un jour, elle soit fière de son père. Dans les jours qui suivirent la naissance de Marie, j'eus le privilège de me réjouir d'une seconde naissance, celle de ma thèse. Tout arrivait en même temps. Coïncidence, ma fille et ma thèse faisaient exactement le même poids, 3,6 kg. Très vite, notre vie connut un nouveau rebondissement. Début juillet, le téléphone retentit. C'était Gene Sharp en personne. Il venait m'apprendre que mon projet les intéressait beaucoup et qu'il serait ravi de me compter parmi eux l'année prochaine. On m'aurait annoncé que l'on me proposait un voyage sur la Lune, j'aurais ressenti à peu près la même chose. Et je pris subitement conscience d'un problème qui me remplit d'inquiétude. Gene Sharp ne savait strictement rien de mon affection aux yeux. Devais-je lui en parler avant mon départ, au risque de le voir changer d'avis? Je passai une nuit d'insomnie à retourner les arguments, pesant le pour et le contre. Et finalement, une position s'imposa à mon esprit. Je ne pouvais pas ne pas l'avertir. Après avoir soigneusement préparé les phrases clés de ce que je tenais à dire à Gene Sharp dans mon anglais approximatif, Je pris l'initiative de lui téléphoner. Je tentai de lui expliquer que je voyais très peu, mais qu'il ne fallait pas qu'il s'en inquiète, car je pouvais me débrouiller. Il promit de me rappeler dans les jours suivants. Quand le téléphone sonna ce jour-là, j'étais presque certain que c'était lui. Il commença par me dire qu'il avait effectivement parlé de mon problème avec son équipe, comme je le souhaitais. Le résumé de leur discussion revenait à me poser une question. « What do you need ?»« De quoi avez-vous besoin ?» Sacrés Américains ! Je m'attendais à tout sauf à ce genre de réaction. Jamais je n'oublierai ce « What do you need ?» qui m'ouvrait toute grande la porte vers l'Amérique, ce nouveau monde dont je ne connaissais rien. Et quelle Amérique ? Harvard, s'il vous plaît ! Ce lieu mythique qui avait formé tant de brillants esprits. Pour faciliter mon adaptation à la vie américaine, j'avais pris soin avant mon départ de demander au groupement des intellectuels aveugles et amblyopes de m'indiquer un centre spécialisé pour les déficients visuels dans la région de Boston. Le plus réputé était le Carroll Center for the Blind, créé en 1937, situé à Newton. J'avais donc écrit à cette institution pour signaler ma venue. Dès mon premier jour, je téléphonais pour prévenir que j'étais bien arrivé à Harvard. On me fit savoir que la directrice en personne souhaitait me rencontrer au plus tôt. Nous fîmes alors la connaissance d'une femme extraordinaire, Rachel Rosenbaum, qui voulait faire tout son possible pour faciliter mon séjour. D'origine canadienne, elle parlait un excellent français, bien qu'ayant peu l'occasion de le pratiquer. Elle me demanda avec son délicieux accent canadien « Mais comment allez-vous travailler ?» Comme j'hésitais sur ma réponse, lui parlant de ma machine à écrire IBM et de grosses lampes, elle m'interrompit. « C'est fini tout ça, faut vous mettre tout de suite à l'ordinateur, hein, va vous rendre de grands services. » Rachel me mit aussitôt entre les mains de Brian, le technicien chargé du parc informatique. Celui-ci m'installa devant un ordinateur pour me présenter sur l'écran des caractères selon différentes configurations, en fonction de la couleur, de la grosseur et du contraste. Oh surprise ! Je revoyais. Tout dépendait non pas de la grosseur, mais du contraste des lettres à l'écran. Si celle-ci était en noir sur fond blanc, je restais dans le brouillard. À l'inverse, si les caractères apparaissaient en blanc sur fond noir, alors, miracle, je revoyais normalement. C'était fabuleux. Je pouvais même distinguer les petites lettres. Brian m'emmena dans une petite pièce où étaient installés des appareils que je ne connaissais pas, des téléagrandisseurs. On déposait une feuille de papier imprimé sur un plateau mobile, qui était surplombé par une caméra dont l'image se projetait sur un petit écran de télévision. Et tout à coup, le texte m'apparut sur l'écran, très lisible, en blanc et noir. À la fin de ma visite, je témoignai mon enthousiasme à Rachel, mais tout n'était pas résolu, cependant. L'ordinateur, je savais que Gene Sharp était disposé à m'en fournir un, comme à tous les chercheurs de son centre, mais le téléagrandisseur, comment m'en procurer un modèle ? « Nous allons vous en prêter un durant toute la durée de votre séjour. Dites-nous quand notre chauffeur peut vous l'apporter. » Quand vous rencontrez des personnes aussi accueillantes et efficaces, aussi disposées à vous aider, vous êtes prêt à vous défoncer. De retour à Paris en juin 1988, je me préparais à mon audition au CNRS, juste une semaine après être descendu de l'avion. Je fus vite fixé quant au résultat. J'avais lamentablement échoué. Décrocher un poste à la première candidature, vu le niveau de cette compétition, était pratiquement impossible. Et il y avait encore autre chose. Cet environnement familier que je retrouvais, celui de mon appartement de la rue du Commerce, je remarquais que j'en avais une perception encore plus floue qu'avant de partir. J'avais bien basculé dans l'autre monde. Et pour couronner le tout, je n'avais plus de travail salarié. Quelle galère ! Dans mon malheur, je m'inventais une devise pour garder le moral. Voir peu, mais voir loin, faire de la résistance, voir au moins 2 ans de plus. Le jour J, j'étais bien mieux préparé. Nous étions en mai 1990. Quelques jours auparavant, Lydie m'avait annoncé une bonne nouvelle, elle était à nouveau enceinte. Marie allait donc avoir bientôt un petit frère ou une petite sœur. La naissance de notre premier enfant avait coïncidé avec l'achèvement de ma thèse et le départ à Harvard, pourvu que l'arrivée prochaine du second coïncide avec mon recrutement au CNRS. Ça serait un scénario formidable, auquel je n'osais encore croire. Je n'eus pas bien longtemps à attendre. Un soir vers 20h, le téléphone sonna. « Vous avez été classé second. En principe, vous êtes recruté. Cependant, il faut encore que le classement soit confirmé. Le classement fut ratifié par les instances nationales. C'est vers 1983 que j'avais commencé à envisager vaguement de devenir universitaire ou chercheur. Il m'avait fallu 7 longues années pour y parvenir. Quand Maud poussa son premier cri, j'eus l'impression qu'elle me disait « Coucou papa, me voilà, tu as bien travaillé ». J'en versai quelques larmes de bonheur, gardant cependant au fond de mon cœur une infinie tristesse. Maud n'était pour moi qu'un cri, certes un cri de vie, mais non un visage. J'aurais tout donné pour contempler cette petite bouille, même encore fripée. Me voici donc arrivé là où je suis étranger, disons plutôt où j'étais étranger, car ce nouveau monde, j'ai appris à le connaître. Sur ces terres hostiles, j'ai appris à vivre. J'ai acquis de nouveaux réflexes, découvert une autre manière de percevoir la réalité. J'ai fait surtout la connaissance de nouvelles personnes, dites non-voyantes, parfois exceptionnelles. Si vous en doutez encore, je peux l'attester. Les miroirs sont des êtres humains, comme les autres. Où ai-je trouvé la force de faire ce long voyage, sans disparaître dans les affres de la dépression? Assurément dans l'affection et le soutien de mes proches qui, lorsque les idées noires me gagnaient, ont su me dire « Ne t'en fais donc pas, tu vas bien finir par y arriver ». Grâce aussi à la chaîne solidaire de ces lecteurs qui, au fil des années, m'ont généreusement donné leur voix comme d'autres donnent leur sang. Mais ceux qui vous aiment et vous aident ne peuvent se battre à votre place. C'est vous, et vous seul, qui décidez ou non de lutter. Tout se joue dans votre tête, dans le regard que vous portez sur votre vie. Or, le mien a toujours été celui de la révolte.
Eh bien, voici, vous avez écouté donc la version abrégée du livre de Jacques Semelin, « J'arrive où je suis étranger », disponible dans toutes les librairies, édité au Seuil. Et j'espère que cela vous a plu. Je voulais juste vous annoncer une petite annonce pour mardi prochain, 28 octobre, à 19h30, à la CAF Poésie. Gilbert Baquet, qui était notre invité il y a quelques mois, qui est poète, qui vit à Toulouse, lira « Les mots » de Jean-Paul Sartre à la CAF Poésie, donc mardi 28 octobre, 19h30. La CAF Poésie, c'est 71 rue du Thor. Je vous donne le numéro de téléphone pour réserver, 05 61 23 62 00 05 61 23 62 00 et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur les ondes de Radio Occitanie. Je recevrai Charles-Henri Lavielle qui est responsable des éditions Anacharsis à Toulouse. Bonne semaine à tous et à d'ici à demain.